sous le soleil, exactement juste en dessous. Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur le 89.4 et c'est le temps des poètes. J'espère que vous n'avez pas trop chaud aujourd'hui, que vous pouvez bien boire. Il fait chaud, mais nous allons nous rafraîchir en poésie. Au programme aujourd'hui, l'histoire de la poésie, La Fontaine. Ça sera aussi le deuxième numéro de la série Jeune poétesse, un entretien avec une jeune poétesse qui préfère garder l'anonymat. Une chronique, celle d'Oriane, l'actu de la poésie. La poésie c'est quoi? Et puis la lecture de quelques poèmes, si nous avons le temps, comme d'habitude. Jean de La Fontaine, cette grâce, Jean de La Fontaine, 1621-1695, la possède au point de n'en savoir que faire et de la prodiguer en menus, opéras et divertissements avant de l'employer à une œuvre de fabuliste si parfaitement recevable par le génie français et si parfaitement réussie qu'elle deviendra quelque chose comme un de ces monuments publics dont on oublie à la longue l'histoire, le matériau et enfin l'esprit ou la grâce précisément, qui suscita leur émotion. Pour tout le monde, La Fontaine, et son nom même y a prêté, est devenu un lieu commun, plein de fraîcheur, ça tombe bien aujourd'hui, et d'innocence, de verdure et de braves bêtes, où l'on se doit de conduire très tôt ses enfants, car on s'y amuse et instruit tout ensemble sans le moindre danger. Une espèce de Disneyland, en somme. Un Disneyland classique, mais qui ne perd rien de sa modernité. Pourtant, même s'il advient, mais c'est très rare que La Fontaine s'attache à décrire les animaux qu'il met en scène, mais alors il les croque de main de maître. Un jour, sur ses longs pieds, allé je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. La comédie aux 100 actes divers qu'il écrit de fable en fable est une comédie dont l'univers se limite à celui des hommes, lesquels se sont affublés de masques zoomorphiques que par prudence. Comédie pessimiste du reste et misanthropique, ce en quoi l'œuvre du pseudo-bonhomme La Fontaine n'a pas grand-chose à voir avec la mission éducative dont on continue de la vouloir charger, puisque seul y triomphe la violence, la flatterie et la ruse. Pourquoi cette prudence? Parce que La Fontaine sait trop ce qu'il en coûte de n'en pas avoir quand on vit sous l'absolutisme. Donner de l'homme une image véridique ne serait pas moins dangereux que de s'en prendre à l'autorité royale. La Fontaine, qui devra attendre 30 ans pour que Louis XIV lui pardonne d'avoir pris la défense de Fouquet, est moqué. Cette foule de gens qui s'en vont chaque jour saluer à longs flots le soleil de la cour. La Fontaine trouve moins risqué de s'en prendre symboliquement au lion, au loup, au serpent ou au renard, même si dans la moralité de certaines de ses fables, il nomme carrément la cible qu'il vise et touche. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il a protégé son affût de tant de plumages et pelages qu'il prend de court sa victime. Et puis, il y a un autre alibi, celui tout à fait convenable et même recommandé de l'imitation des anciens, Ésope en particulier, à qui il emprunte en fait beaucoup moins qu'il n'ajoute. Mon imitation n'est point un esclavage. Au vrai, La Fontaine n'imite personne. Certes, il ne cache pas ce qu'il doit dans ses contes à Boccace et pour d'aucuns à Rabelais, ni ce que son Adonis, son élégie aux nymphes de Vaux et toute son œuvre lyrique doivent à la fois, quant à leur précision de termes et à leur mélodie, à Malherbe, à Racan et à Ménard, et en quoi il est proche à la fois d'un Marot, d'un Théophile de Viaud et d'un Tristan l'Hermite. Mais le génie de cet errant, tout ensemble bouillonnant et tranquille, est à tel point authentique qu'il fait de tout ce qu'il butine un miel qui n'appartient qu'à lui. Le chicanerons-nous de n'aimer point Ronsard à qui il reproche d'être dur, sans goût, sans choix, alors qu'il avoue sa reconnaissance envers Voiture et lui emprunte quelques roulades hyper précieuses. La vérité de La Fontaine est bien ailleurs qu'en ce genre d'acrobatie sur la carte du tendre. Elle est par exemple en son art inouï de la mise en scène, qui lui permet en quelques mots seulement de peindre tout un tableau mouvant, coloré et bruyant. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, six forts chevaux tiraient un coche. Et il faut le chercher aussi, cette vérité de La Fontaine, dans l'espèce de génie fantasque, brouillon, narquois, celui des vieux poètes français, du fabliau au grotesque que Claude Roy le voit maintenir au prix de la disgrâce du roi et des foudres de son ami Boileau, dans ce siècle ratissé. Il s'agit moins pour lui de moraliser que de reprendre, avec une liberté d'expression et d'animation qui se moque des précisions géographiques, zoologiques et chronologiques, la fable incongrue, merveilleuse et souriante à laquelle tous les peuples ont collaboré. Enfin, dans les fables elles-mêmes, aussi bien que dans Adonis ou Psyché, s'affirme de préférence en long vers coulé, dont Racine seule égalera l'envoûtante mélodie, ce qui est la plus secrète figure du plus vulgarisé de nos poètes. Un romantisme avant la lettre, d'ores et déjà pétri de tous les rêves, d'ores et déjà vibrant d'un désir désespéré de se fondre dans le cosmos. D'ores et déjà requis d'une nouvelle invention de l'amour. Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique, celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Jour devenu moment, moment filé de soi, agréable soupir, pleurs enfant de la joie, vœux, serments et regards, transport, ravissement, mélange dont se fait le bonheur des amants. La Fontaine meurt en 1695. Boileau lui survivra 16 ans. Louis XIV ne mourra qu'en 1715. Le soleil du classicisme et les menus astres, qui, précieux et baroques, ajoutèrent à sa lumière, bien plutôt qu'elle ne la contrarièrent, se sont alors bien estompés. Estompés seulement. Pour certains historiens de notre littérature, le classicisme aurait rendu l'âme dès 1680. Pour d'autres, que nous rejoignons, Malherbe et Boileau n'ont nullement fini de légiférer. Suffit à le prouver le fait qu'avant Baudelaire, nul n'est osé sérieusement mettre en doute que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Qu'avant Rimbaud, personne n'ait osé sérieusement toucher au vers. Que de nos jours encore, tant de gens prennent pour de la poésie n'importe quelle maligne prose habillée en vers. Et l'on prouverait également sans peine que ni la préciosité, ni le baroquisme n'ont disparu de notre poésie, voire même qu'ils n'ont jamais été plus vivant qu'aujourd'hui.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût, ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris, que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Je vous propose, comme je vous disais en début d'émission, d'écouter maintenant un entretien qui a été enregistré au début de l'année avec une jeune poétesse, où nous allons parler, entretien dans lequel nous allons parler de poésie et de chansons. Mais cette jeune poétesse souhaite garder l'anonymat, alors nous respectons son désir. C'est le deuxième numéro consacré aux poétesses qui débutent dans le métier. Bonne écoute et à tout à l'heure.
Non, pour moi je pense que ces deux formes différentes, elles font appel au rythme, à des sonorités aussi harmonieuses. Mais pour moi,
et mon corps t'en fera merveille sur mon Steinway plein d'expertise. Je leur jouerai du Stravinsky. Pendant qu'ils boiront mon whisky, diront chut, le maître improvise. Mes amis qui m'étiez fidèles, où êtes-vous? Où êtes-vous? J'aurai leur femme légitime dedans des lits à baldaquin. Brodés au point du dévouement, ces créatures d'un moment me seront bien tristes, litières. Mes amis, ami qui m'étiez fidèle, où serez-vous, où serez-vous? Tandis qu'enfoui sous la terre, j'attendrai le temps qu'il faudra. L'ami lointain qui fleurira ma tombe aux fleurs de la chimère.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération.
Est-ce que pour toi, chanson et poésie, c'est pareil?
Non. Pour moi, je pense que ces deux formes différentes, elles font appel au rythme, à des sonorités aussi harmonieuses. Mais pour moi, la grande différence, c'est que c'est l'ambiance qu'elle crée, que le lecteur reçoit, c'est-à-dire que le poème...
Paris galope dans son esprit, que dans ses rêves chaque nuit.
Paris a les raviolis.
Je pense que la musique va créer pour la chanson, ça a une place tout aussi importante que le texte. Alors certains...
Pour nous montrer les planètes,
parce que le poème, en général, on le déclame en silence, sauf pour des formes comme l'islam, mais je trouve que c'est ce rapport au silence et juste là.
Les promènes, c'est le père du bas, mort ici et tombeau là, pour l'histoire et la trompette, on a qu'il y a de 5 à 7.
Être humain pourrait le faire au sortir du lit. J'aimerais aller plus loin avec vous et me demander.
Est-ce que pour toi, chanson et poésie, c'est pareil?
Non. Pour moi, je pense que c'est deux. Pour moi, la grande différence, c'est que c'est l'ambiance qu'elle crée, que le lecteur reçoit, c'est-à-dire que le poème...
Escalier de l'amour, cité Saint-Jean, place Verlaine. La ville est dans la cour, le ciel est lourd, bleu sous l'âne. Les portes sont toutes les mêmes et les numéros sont chauds. Et les carreaux carrés ont les mêmes rideaux. Escalier de l'amour, cité Saint-Jean, place Verlaine. Je descends le long des tours, je vais de ton ciel à la peine.
Je pose cette question parce qu'effectivement, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Mais à l'origine de la poésie, de toute façon, il y a les troubadours. Donc effectivement, c'est très lié, la chanson et la poésie. Parce qu'autrefois, il y avait moins d'écriture, puisque les gens ne savaient pas lire. Donc on s'adressait... On déclamait des poèmes et souvent et c'était accompagné de musique. Alors effectivement, il y a des chansons qui sont des poèmes et des poèmes qui peuvent se convertir en chansons, il n'y a pas de problème. Il y a l'habillage de la musique. Effectivement, on peut considérer que la musique, c'est un habit, et que les mots tout seuls sont un peu dépouillés, effectivement, de tout. Mais il y a quand même beaucoup de liens entre la chanson et la poésie. Quand même. Et est-ce que tu penses qu'on, justement, si on parle de la musique et de la poésie, est-ce que tu penses qu'on peut mettre en musique tous les poèmes, justement? Je pense que la réponse est un peu évidente, en fait. Mais... Oui. Oui.
Les portes sont toutes les mêmes, mais les numéros sont chauds. Et tes carreaux carrés.
Reconnaître que tenir un carnet ou noter ses rêves nocturnes est pareil aux bonnes résolutions de début d'année, éphémères et idéalisées.
Oh, sacré triple!
Alors je crois que nous avons quelques petits problèmes techniques, alors je ne sais pas, pourtant j'avais vérifié avant l'émission, alors c'est peut-être dû à la chaleur, bon ben ce n'est pas grave, je vais essayer de vous faire écouter une chronique d'Oriane tout à l'heure, nous écouterons une autre fois l'entretien qui avait été enregistré au début de l'année. Nous allons quand même poursuivre cette émission tant bien que mal. On va continuer à écouter une chanson. Après, on essaiera d'écouter une petite chronique, puis on essaiera de reprendre l'émission tranquillement.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. ça n'est rien d'autre qu'une aventure. Ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
Voilà, c'était Mouloudji, vous l'avez reconnu. Alors, on a quelques petits problèmes techniques dans cette émission, mais je vais essayer de vous faire écouter une chronique. Alors, j'espère que cette fois-ci, que nous n'aurons plus de problèmes.
Privilège, indifférence, égoïsme, fin dans le monde, idée bafouée.
Tel qu'un être humain pourrait le faire au sortir du lit. J'aimerais aller plus loin avec vous et me demander de quelle manière la littérature, berceau de nos réflexions, nous invite-t-elle à explorer ces récits que le sommeil crée pour nous. En tant qu'outil narratif, les rêves sont des éléments puissants. Intégrés au récit de la vie d'un personnage, ils peuvent servir de miroir à l'inconscient ou faire surgir des émotions profondes. Prenons l'exemple du roman de fiction « Les cerfs volants » écrit par Romain Gary. Le personnage principal, Ludo, raconte un rêve qu'il a fait une nuit et enchaîne avec une action au présent. Cette analepse temporelle permet d'expliquer une réaction, en l'occurrence ici, une émotion enfouie. Je vous lis le passage. Une nuit, je rêvais que j'étais debout sur le toit et que Madame Julie se tenait en bas sur le trottoir, les yeux levés, attendant que je me lance pour me saisir dans ses bras. Finalement, le moment vint où, assis en face d'elle, à la cuisine, je cachais mon visage dans mes bras et éclatais en sanglots. Certains auteurs choisissent de pousser l'ambivalence rêve-réalité encore plus loin. C'est là qu'intervient le genre littéraire fantastique où les atmosphères oniriques défient les conventions de la réalité. L'œuvre « Les aventures d'Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll en est le parfait exemple. En transcendant les limites de la réalité, l'auteur explore un univers ludique et surréaliste dans lequel la jeune Alice évolue. L'écrivain français Daniel Pennac disait, dans un entretien pour Monaco Hebdo, que l'imagination prend le relais quand on raconte un rêve, en précisant que l'imagination est le rêve maîtrisé. Il faut dire qu'en effet, écrire le rêve d'un de ses personnages relève de la maîtrise. L'auteur ou l'autrice brode un ensemble cohérent, en particulier en littérature générale où les monstres et les situations invraisemblables ne sont pas appropriés. Et si raconter le rêve pouvait rejoindre le second sens qu'on attribue au mot, soit l'ambition ou le dessein du personnage. C'est ce qu'explorent des auteurs moins récents en prenant les rêves comme inspiration et influence. En poésie notamment, Paul Verlaine utilise son supposé propre rêve dans son poème « Mon rêve familier » pour exprimer des sentiments complexes et des réflexions sur la beauté, l'amour et la souffrance. Le lyrisme est très propice au thème des rêves. Voici le poème. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et, pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion de ses voix chères qui se sont tues. Dans un autre genre, Marcel Proust parle de la mémoire et du temps à travers des expériences qui rappellent le rêve, dans son œuvre « À la recherche du temps perdu ». Il cherche à comprendre les mystères de la psyché humaine. D'un point de vue psychologique, le rêve est interprété comme l'expression de désirs refoulés et de conflits internes. Sigmund Freud est connu pour avoir analysé cette activité psychique complexe de l'esprit humain. Alors, comme on vient de le voir, cette approche a influencé de nombreux écrivains. Ils utilisent le rêve dans sa forme symbolique, cauchemardesque ou irréelle pour explorer les profondeurs de l'inconscient et tenter des interprétations. Finalement, je pense que je vais tenter une dernière fois de tenir mon carnet à rêves. Peut-être qu'une idée de roman jaillira dans mon esprit.
Voilà, c'était la chronique d'Oriane. J'ai l'impression que ça s'est un peu mieux passé au niveau technique. On va se retrouver tout à l'heure et on parlera de l'actualité de la poésie. Thank you. Voilà, c'était un petit moment classique avec Beethoven. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'entretien avec la jeune poétesse un peu plus tard sur le site de l'émission. Je m'arrangerai pour le mettre sur le site de l'émission. C'est la radio en direct et il y a quelquefois des problèmes techniques. J'espère que tout s'est bien passé pour la chronique. Dans l'actu de la poésie, les marchés de la poésie. Il y a eu le marché de la poésie de Saint-Sulpice début juin. Je ne sais pas ce que vous pensez des marchés de la poésie. Pour ses 60 ans, le festival OFF d'Avignon, qui se déroule du 4 au 25 juillet 2026, affiche sa puissance. 1780 spectacles, 27 000 représentations, et met la Méditerranée à l'honneur. Mais derrière l'ampleur, une question plus fine s'impose, selon le site strophe.fr. Quelle place pour la poésie dans cette machine scénique ? À Avignon, la poésie n'est jamais annoncée comme un programme. Elle circule, se glisse entre les formes, surgit là où on ne l'attend pas. L'édition 2026 ne déroge pas à la règle. Le festival revendique une stabilisation après des années de croissance. 1780 spectacles, 1432 compagnies, plus de 7000 artistes. Une masse qui pourrait écraser les écritures les plus fragiles. Premier point d'ancrage, le figuier pourpre, maison de la poésie, seul lieu du OFF où la poésie n'est pas un adjectif mais un principe. C'est là que se jouent les cercles clandestins de poésie, performance d'improvisation où les mots du public deviennent textes en temps réel. À l'autre bout du spectre, Poème pour Pécho revendique une poésie du quotidien, friction entre langage amoureux et ironie contemporaine. Entre ces deux pôles, la majorité de la programmation relève d'une zone grise. Beaucoup de spectacles se disent poétiques, théâtre fragmenté, forme visuelle, récit éclaté, sans toujours travailler la langue comme telle. Ici, le mot devient parfois un alibi esthétique. Ce que le OFF donne à voir en creux, c'est la difficulté contemporaine à maintenir une exigence poétique dans un contexte de production saturée. La profusion ne garantit rien, elle peut même diluer. Le festival tente pourtant de rééquilibrer un temps fort dédié aux auteurs et programmé les 18 et 19 juillet au village du OFF Espace Central où se concentrent plusieurs centaines d'événements. Reste à savoir si cette intention résiste à l'économie du festival où la visibilité immédiate l'emporte souvent sur la densité des écritures, nous dit le site strophe.fr, un site consacré à la poésie. En 1966, André Benedetto invente, presque malgré lui, un espace de création libre en marge du festival officiel. Le geste est d'abord celui d'un auteur. 60 ans plus tard, la poésie pourrait bien être la manière la plus fidèle d'habiter cet héritage, non comme célébration, puis mais comme résistance. Et puis, sur le même site strophe.fr, un site très intéressant sur la poésie, on trouve un portrait de Bobby Lapointe. Seul reste le souvenir d'un chansonnier fantaisiste scandant à une vitesse vertigineuse des textes remplis de jeux de mots, d'où n'émergent que quelques saillies accrocheuses, telles que « Ta Cathy t'a quitté »,« Cuite tes cocus »,« Cuite-toi tes cocus », ou « La maman des poissons, elle est bien gentille et moi je l'aime bien avec du citron ». Pourtant, l'auteur de ces blagues est bien autre chose qu'un pré-rappeur rigolo. Bobby Lapointe fut aussi comédien, mais surtout, il mériterait de survivre dans les mémoires comme un poète à la sensibilité aiguë, un linguiste exceptionnel, doublé d'un mathématicien totalement novateur. Robert Lapointe est né à Pézenas, dans l'Hérault, le 16 avril 1922.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps.
Vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Georges Moustaki qui nous accompagne pour cette émission, tout le long de l'émission où il y a quelques petits problèmes techniques et je m'en excuse auprès de vous. Quelques définitions de la poésie. La poésie, ça sert à voir avec les oreilles. Ça, c'est la définition de Jean-Pierre de Petry. La poésie, c'est de savoir dire qu'il pleut quand il fait beau et qu'il fait beau quand il pleut. Raymond Queneau. La poésie, c'est le langage dans le langage. Paul Valéry. La poésie est cette musique que tout porte, que tout homme porte en soi. William Shakespeare.
Je t'ai rencontré par hasard ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes, sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. Mon point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en. Mon pauvre amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir. Les deux, nous allons vieillir chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le phono. Moi, je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, disant mon nom sur une affiche, me parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, il lui dira que je m'en fiche.
Nous allons maintenant lire quelques poèmes, et là nous n'aurons pas de problème technique, j'espère. Voici un poème de Guillaume Polinaire, L'adieu. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Guillaume Apollinaire, c'est un poème extrait d'Alcool, publié en 1913. En voici un autre de Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, un poème publié en 1857 qui s'intitule Harmonie du soir. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, ton souvenir en moi, lui, comme un encensoir. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857. En voici un dernier pour la route qui, je sais, est très chaude. Colloque sentimental, un poème de Paul Verlaine, extrait des Fêtes galantes, publié en 1869. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours, ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignons nos bouches, c'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir, l'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. C'était un poème de Paul Verlaine, extrait des Fêtes galantes en 1869.
Te rappelles-tu le jour de ma fête où tu m'emmenas rire à Robinson? Nous avions alors de l'amour en tête car nos cœurs chantaient la même chanson. Dans l'arbre fameux, je grimpais bien vite, le vent souleva ma jupe un peu trop. Et toi curieux, montant à ma suite, en voyant cela, tu crias plus haut. Nous sommes assis, tu me dis, voisine, mettez donc vos pieds sur ce petit banc, et d'un œil joyeux, l'orient ma bottine. Tu vas la chercher sous mon jupon blanc. Le garçon paraît, oh, je vois sa tête. Il nous dit, pardon, puis il ajouta, on n'a pas encore posé de sonnette, mais je tousserai pour le second plat. Le jour finissait et de l'arbre immense nous redescendions. Un curé passa quand tu m'embrassais. maintenant j'y pense. Il se mit à rire et se retourna. Tu serras alors ma main dans la tienne, d'amour éternel prononçant le nom. Un merle moqueur siffla dans un chêne, et de te siffler, il avait raison. Il avait raison, ce merle incrédule, de rire déjà de tes beaux serments. Car t'en souviens-tu, malgré leur formule, ton amour finit avec le printemps. J'ai refait sans toi le même voyage. L'arbre m'a semblé tout bête et tout nu. Les oiseaux parlaient un autre langage. Car j'étais au bras d'un cœur inconnu. D'autres m'ont depuis souhaité ma fête. Oh, mais là, tu sais, ce n'était plus ça. J'ai toujours gardé Robinson en tête. Et rien, jamais rien ne l'efface.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être ? Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, un poème publié en 1857 intitulé « À une passante ». Paul Gentoulet, Les contre-rimes, un poème publié en 1921. Le tremble est blanc. Le temps irrévocable a fui. L'heure s'achève. Mais toi, quand tu reviens et traverses mon rêve, tes bras sont plus frais que le jour qui se lève, tes yeux plus clairs. À travers le passé, ma mémoire t'embrasse. Te voici. Tu descends en courant la terrasse, odorante, et tes faibles pas s'embarrassent parmi les fleurs. Par un après-midi de l'automne, au mirage de ce tremble inconstant que varient les nuages, ah, verrai-je encore se farder ton visage d'ombre et de soleil. Paul Gentoulet, Les contre-rimes, 1921.
Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer. Un jour, viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Dun, 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 dun.
Aussi je vas dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Je passe mon temps chez les manzingues, où ce qu'on prêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand chose.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent, avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Malgré les problèmes techniques, puis je vous laisse avec Faites-nous des chansons. À bientôt.
Thank you. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de pays en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troulalaire, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troulalaire, si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappée pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent